écoutez CFM et c'est l'émission Ondes Positives qui commence. Le rendez-vous à honorer toutes les semaines, c'est le nôtre. Et oui, laissons la place aux gens qui voient le verre à moitié plein ou même complètement plein. Laissons la place à ceux qui ont des messages positifs à partager. Et Martine Lemouel, mon invitée cette semaine, en fait partie. Bonjour Martine.
Bonjour Dorothée.
Martine, tu es enseignante, mais tu es une enseignante pas comme les autres. Tu as créé une salle de jeu chez toi et depuis une quinzaine d'années à Bressol, dans le Tarn-et-Garonne, tu accueilles des enfants et des adolescents et tu leur apprends à apprendre. Et ton message positif pour nous aujourd'hui est le suivant. Chacun de nous a un potentiel illimité. En gros, un élève nul, ça n'existe pas. Tu as banni ce mot de ton vocabulaire, n'est-ce pas Martine?
Tout à fait. Un élève nul, ça n'existe pas. L'an dernier, j'ai démarré avec une élève de terminale S qui avait 1 en maths et elle a eu son bac. Et aujourd'hui, elle est vraiment heureuse d'apprendre.
Mmh. Alors, en ce début d'année scolaire, ça tombe bien. C'est vraiment le message qu'il nous faut. Explique-nous en quoi c'est important d'apprendre à apprendre.
Alors, je crois que c'est important d'apprendre à apprendre parce qu'on s'aperçoit, moi j'accompagne donc des élèves en difficulté scolaire, mmh. et donc moi je dirais en difficulté d'apprentissage, c'est-à-dire qu'au niveau scolaire, ils ne savent pas comment faire. On peut dire à un élève, soit attentif, mais que signifie être attentif?
Mmh.
Donc c'est de leur donner des outils pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'ils font quand ils apprennent une leçon, qu'est-ce qu'ils font quand ils doivent mémoriser une leçon de mathématiques, une leçon d'histoire.
D'accord. Donc en fait, tu travailles sur la méthode.
Je travaille beaucoup sur deux choses. D'une part, sur la méthode et aussi sur leurs croyances. Mmh. Parce que souvent, un élève qui est en difficulté scolaire, il pense qu'il est nul.
Ah ouais. Alors, en fait, tu m'as dit, je travaille sur deux questions que je pose comme ça dans l'absolu. Qu'est-ce que je fais quand j'apprends? Et qui je suis quand j'apprends? Alors ça, je trouve que c'est qui je suis quand j'apprends, c'est quand même une question pas simple.
Alors, qui je suis quand j'apprends, ce n'est pas une question facile.
Ouais.
Mais qui je suis, c'est-à-dire qui je suis émotionnellement, c'est-à-dire que quand j'apprends, qu'est-ce que je mets en place? Il faut savoir que chacun de nous, au niveau de notre cerveau, il y a trois parties.
Mm-hmm.
Il y a un cerveau reptilien, il y a un cerveau limbique et il y a le cortex. Alors, je vais aller un peu rapide. En fait, le reptilien, c'est la survie. C'est-à-dire que manger, boire, dormir, ça en lien avec le cerveau reptilien.
Mmh.
Alors que le cerveau limbique, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'intéresse à tout ce qui est affect et il s'intéresse et il mémorise aussi ce cerveau limbique. C'est-à-dire qu'on a tous souvenir d'avoir été à l'école. Le professeur rentre. Oh non, pas lui. Et on regarde tous les 3 minutes, notre montre. 9h, 9h10, 9h30. Le temps ne passe pas.
Mmh.
Donc ça, c'est notre cerveau limbique. Et il nous joue beaucoup de tours. Et ensuite, c'est notre cerveau, le cortex. C'est lui qui nous permet de réfléchir aux différents problèmes qu'on nous donne des différents énoncés.
Mmh.
Donc en fait, la difficulté, c'est que si notre cerveau reptilien, si un enfant va à l'école ou un adulte est en apprentissage et qu'il ne sait pas s'il va pouvoir manger ce soir ou s'il va pouvoir mettre de l'essence dans sa voiture, il ne pourra pas apprendre.
Ouais.
Et puis,
parce qu'en fait, toute son énergie, toute son attention est portée sur sa survie, sur ce qui est vital en premier.
Voilà, le cerveau reptilien, c'est vital. Donc, si je ne sais pas ce que je vais avoir dans mon assiette le soir, je ne peux pas apprendre.
D'accord.
Et puis, le cerveau limbique, c'est intéressant aussi, c'est cette notion de professeur avec qui le courant passe pas, mais c'est aussi la mauvaise expérience. C'est-à-dire qu'un élève qui vient me voir parce qu'il a des difficultés en mathématiques, donc il va avoir un blocage. Je vais pas forcément commencer par les mathématiques, parce que pour lui, les mathématiques, c'est noir.
Mm.
Donc je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il sait bien faire. Et on va discuter de qu'est-ce qu'il sait bien faire. Et après, je vais essayer de le débloquer, d'essayer de lui montrer qu'il a des compétences.
Oui.
Et après, je pourrai aller sur le domaine des mathématiques.
D'accord. Donc en fait, tu emmènes les personnes que tu accompagnes, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes en apprentissage, à travailler sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes en premier.
Tout à fait. Le premier travail et le travail tout le long de l'apprentissage que je fais avec eux, tout l'accompagnement, on pourrait le résumer à un mot un peu savant, restauration narcissique. Ouais. Mais en fait, c'est juste de les accompagner pour que tout d'un coup, ils se disent « Mais oui, je suis compétent.
Ouais.
Oui, je sais faire. »
Donc, on transforme l'image négative du « je suis nul » ou « je ne suis pas logique et je ne comprendrai jamais les maths » en une image plus positive. « J'ai plein de ressources, j'ai plein de compétences et maintenant, je vais trouver un moyen de les utiliser et de les mettre à profit, à bon escient. »
Tout à fait.
Ok. Pour toi, l'école, en fait, ça devrait nous donner le goût d'apprendre, le goût de savoir. Hein.
Tout à fait.
C'est pas forcément le cas?
Ben, je ne suis pas là pour accabler l'école.
Mmh, bien sûr.
Mais par contre, ce que je constate, c'est que je me retrouve dans un repas quelconque, je me retrouve n'importe où, et je rencontre toujours des parents qui me disent « Oui, mon enfant est dyslexique, dyscalculique, hyperactif, précoce.
Mmh. »
Donc, ce que je peux constater, c'est que beaucoup d'enfants ont des difficultés. Et c'est pour ça que je dis que l'école, je pense qu'elle dysfonctionne. Et ce ne sont pas les enfants qui dysfonctionnent.
Ah ouais. En fait, en plus, bon bah l'école, évidemment, je vais dire une la palissade, c'est super important dans le sens où l'enfant, il passe tout son temps à l'école. Donc, quand à l'école, ça ne va pas bien, c'est que dans la vie de l'enfant, bah ça ne va pas bien tout court, quoi.
On est tout à fait d'accord.
Oui.
Et l'enfant qui fait qui va tous les jours à l'école et sa seule image de lui, c'est je suis nul.
Mm-hmm.
Il va effectivement mal, sauf si effectivement à côté il fait énormément de sport ou il fait de la musique et où les parents sont très vigilants. Sauf que la difficulté, quand un enfant va mal, les parents ne vont pas non plus très bien.
Mmh,
La première fois que les parents viennent me voir et que leur enfant va mal, leur visage n'est pas très gai.
Ouais, ouais, ouais. Alors justement, on parlera de tout ça, mais d'abord, on va faire une première étape dans notre voyage musical avec toi. Tu nous emmènes écouter Francis Cabrel, Mandela pendant ce temps.
J'étais un presque adolescent, tracassé par le rock naissant, chanteur dans des groupes éphémères. De mes mains, j'ai jamais su quoi faire. Depuis déjà 2 ou 3 ans, Mandela sur son lit de camp. Un peu plus tard, à ma manière, manifestant contre la guerre. Cheveux collés sur les oreilles, ici et le Vietnam pareil. Toi, tu veux te marier en blanc, et Mandela toujours dedans. Tombé pour une idée précise, aucune couleur n'est soumise. La cause dont il est l'apôtre, y a pas une couleur mieux qu'une autre dans le monde qu'il imagine. Pas une couleur ne domine l'origine du combat. On ne s'incline pas. Les concerts 8 jours par semaine. Et voilà que les enfants viennent poser un toit sur notre histoire. Les cerfs-volants, les balançoires. Les fleurs des champs, les libellules. Et Mandela dans sa cellule. Tombé pour une idée précise. Aucune couleur n'est soumise. La cause dont il est l'apôtre. Y a pas une couleur mieux qu'une autre dans le monde qu'il imagine. Pas une couleur ne domine l'origine du combat. On ne s'incline pas. Mon cœur, mon amour, mon enfant, matin de tes 27 ans. Pense à tout ce que tu as pu faire, plusieurs fois le tour de la terre. Imagine tout ce temps, Mandela sur son lit de camp.
On est pour une idée précise,
aucune couleur n'est soumise.
La cause dont tu es la
fin, y'a pas une couleur mieux qu'une autre
dans le monde qu'il imagine.
Pas une couleur ne domine, dire qu'il est tombé pour ça. Au cœur de son idéal, toutes les couleurs se valent, le même bonheur ici-bas. Toutes les couleurs y ont droit, dans les couloirs, les gymnases. Toutes les couleurs se croisent, l'origine du combat. On ne s'incline pas. On ne s'incline pas. On ne s'incline pas.
Mandela, pendant ce temps, Francis Cabrel, c'est le choix musical de Martine Lemuel qui est avec moi aujourd'hui sur le plateau d'Ondes Positives. On ne s'incline pas. Alors, c'est en leitmotiv, Martine, on ne s'incline pas.
Oui. En fait, moi, je crois que pour moi, la vie, c'est se battre pour des idées. Et effectivement, si j'ai choisi d'accompagner des enfants, c'est parce que je crois que d'être en difficulté scolaire tous les jours, ça peut conduire à des adultes qui vont pas bien. Mmh. Déjà, à l'instant T, c'est difficile. Et puis, c'est pour une vie. Parce qu'en fait, on est apprenant toute notre vie. Donc, si l'école, on est en difficulté scolaire, eh bien, dans notre vie, ça va être difficile d'avoir un métier dans lequel on est bien, etc.
Ouais. Alors, donc, je reprends le leitmotiv. On ne s'incline pas. Par exemple, dans ton esprit, on ne s'incline pas devant les mathématiques. Parlons des mathématiques parce que toi, tu adores les maths et tu as des messages positifs à nous donner sur les mathématiques que tout le monde voit comme une bête noire.
Donc, les mathématiques, en fait, c'est facile.
Oui.
On nous a fait croire que c'était difficile. En fait, c'est facile. D'abord, les mathématiques, c'est tous les jours. Les mathématiques, ça n'a pas été comme ça dans les livres. Mmh. Les mathématiques, c'est notre histoire. Les mathématiques, elles ont été créées par des hommes. Donc, si elles ont été créées par des hommes, les autres hommes, ils peuvent les comprendre.
Ouais.
Et je crois aujourd'hui que si beaucoup d'enfants ont des difficultés en mathématiques, en primaire, par exemple, je pense que la principale raison, c'est qu'aujourd'hui, on a oublié le concret. On a oublié la manipulation. Moi, je travaille beaucoup avec du matériel,
ouais.
Du matériel Montessori, mais plein d'autres matériels.
Alors, c'est-à-dire que tu as des jeux et tu fais manipuler les enfants, les adolescents, pour qu'ils comprennent les opérations ou les fractions, des choses comme ça.
Bon, bah, si, par exemple, on prend le cas des fractions, tout le monde dit les fractions, c'est une bête noire. Incroyable. On utilise les fractions tous les jours. Il suffit de faire manipuler. Moi, je fais des matinées de jeux avec des petits de CE1, avec des jeux sur les fractions, et ils adorent ça. En fait, il faut manipuler. Et en fait, manipuler des fractions, tout le monde mange des pizzas, des gâteaux tous les jours. Les fractions, on les rencontre tous les jours. Et si on expliquait aux enfants, on les laissait couper les gâteaux, on créait des... Mais sauf qu'il faut passer du temps là-dessus. Alors qu'en fait, ce qui se passe, je crois aujourd'hui qu'en primaire, on va beaucoup trop vite et on passe directement à l'abstraction. Mmh. Donc moi, je rencontre des élèves de seconde. Quand je leur dis 4 demi, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Généralement, quand j'accompagne des élèves sur l'apprentissage des mathématiques, qu'ils soient en 4e, qu'ils soient en seconde, qu'ils soient en 6e, les fractions, ils en ont aucune idée. Quand je leur dis 5 quarts, mais qu'est-ce que c'est? Ils me regardent avec des grands yeux.
Mmh.
Alors qu'en fait, une fois qu'on a passé du temps, en fait, je crois qu'il faut passer du temps. Et mon entreprise, ça s'appelle l'escargot de Pythagore. Pour les curieux, vous irez voir ce que c'est, un escargot de Pythagore.
Mmh.
Mais pourquoi j'ai appelé ça escargot de Pythagore? Parce que quand j'apprends les maths, j'apprends doucement.
Mmh.
Je revois. Et puis, si on pense aux tables de multiplication, par exemple, bien, il faut prendre le temps de leur expliquer, de leur donner du sens. Qu'est-ce que ça veut dire 5 fois 2? On le montre avec des objets. Calcul, ça vient de cailloux. Les hommes, ils ont commencé à compter avec des cailloux. Donc, il faut manipuler. Et puis, pour les très jeunes enfants, vous avez des mains. Arrêtons d'empêcher les enfants de compter. Nous sommes sur une numération à base 10, nous avons 10 doigts de main. Laissons les enfants compter avec les doigts. Moi, j'ai un petit-fils qui a 2 ans et qui compte déjà jusqu'à 5 avec sa main gauche.
Donc, alors ça, c'est ce que tu fais avec les enfants. Et puisque tu t'adaptes aux enfants, tu t'adaptes aussi aux parents. Alors, comment tu fais avec des parents qui ont dans l'idée que les maths, c'est la matière la plus importante et que de toute façon, quand on n'est pas fort en maths, on est fort en rien, on n'a pas accès aux voies royales d'études, etc.
Quand les parents ont cette vision, en fait, il suffit de les rassurer. C'est-à-dire qu'un enfant qui va venir me voir, je pense à un enfant qui avait des difficultés scolaires, et effectivement, les parents m'avaient demandé de l'aider en mathématiques. Il rentrait en 4e. Et donc, en fait, moi, j'ai démarré par l'espagnol, parce que on démarrait, donc j'ai démarré par l'espagnol.
T'es allée sur une zone de confort.
Je suis allée sur une zone de confort. Mmh. Il a pris 3 ou 4 bonnes notes en espagnol. Et là, il s'est dit, oh, mais peut-être que je peux lui faire confiance à cette dame. Et donc, au début, le papa m'a dit, mais pourquoi vous faites ça? Donc, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, il faut que je rassure votre enfant sur une autre matière. Et donc, il a pris des bonnes notes en espagnol. Et après, on a démarré les maths. Les parents m'ont fait confiance. Le gamin m'a fait confiance et c'était du bonheur. Mais par contre, ce gamin, je vais quand même vous raconter une histoire qui était assez fabuleuse. Ce gamin, chez moi, il faisait un exercice de maths, un devoir de maths, où il aurait dû avoir 15. Chez moi, il avait 15. À l'école, il avait 5. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai réfléchi à plusieurs stratégies. J'ai discuté avec les parents et en fait, j'ai découvert que ce garçon, il était au fond de la classe. Donc, j'ai demandé aux parents d'aller voir le prof principal et qu'ils le mettent devant. Et quand il a été devant, il n'était plus en situation de cancre au fond de la classe et il est devenu bon en maths.
Ouais, c'est fou.
On n'y croit pas.
Donc, ça veut dire que non seulement les mots ont un impact sur l'image de nous, hein, parce que évidemment, quand on nous rabâche qu'on est nul, qu'on n'a pas de logique, ça a un impact sur l'image que l'on a de nous et du coup sur nos performances réelles, mais la place, le positionnement que l'on a également dans une salle de classe par rapport aux copains, par rapport aux profs, a aussi son importance.
Tout à fait. Et surtout, je dirais, dans les classes du collège, où en plus, paraître pour l'intellectuel... Les gamins de 4e et 3e, non, je vais pas prendre une bonne note, pourquoi je passe?
Oui, parce que c'est aussi un mélange subtil. Il faut avoir des bons résultats, mais il faut pas non plus être l'intello de service.
Tout à fait, je dis ça très souvent avec eux.
Alors, on disait on ne s'incline pas devant les mathématiques, et puis aussi dans ton esprit, Martine, on ne s'incline pas non plus devant un diagnostic. Explique-nous ça.
Alors, je suis complètement d'accord. On ne s'incline pas devant un diagnostic. Je trouve que le diagnostic est intéressant, effectivement. Mais ce qui est important, c'est que le diagnostic est à l'instant T. Mmh. Et ce qui est important, c'est de donner les ressources au gamin pour qu'il puisse sortir de ce diagnostic. Et en fait, aujourd'hui, je pense que ce qui pose problème, c'est que on pose trop souvent des étiquettes sur les enfants.
Oui, parce que lorsqu'on parle de diagnostic, c'est une étiquette. Par exemple, celui-là, il est dysphasique, celui-là, il est hyperactif, celui-là, il est dyspraxique, etc. Hein,
voilà.
C'est ça le diagnostic.
Oui, tout à fait. Par exemple, un enfant est venu me voir, il avait vraiment été classé hyperactif. Effectivement, on peut penser qu'il était hyperactif, mais c'est de s'interroger pourquoi il est hyperactif. Dans un premier temps, nous avons beaucoup discuté avec les parents et nous avons posé un cadre. Et déjà, de poser un cadre sur le négociable, non négociable, l'interdit, déjà l'enfant a été mieux. Mmh. Mais c'est un travail de longue haleine, en fait. Il faut être patient. Mmh. Mais je pense que... Je trouve que cet étiquetage qui existe depuis une dizaine d'années et qui va vraiment... qui est de plus en plus prégnant... fait des dégâts considérables sur les enfants parce que les enfants me disent « Mais je suis dyslexique, alors je pourrais jamais savoir écrire. »
Ça devient une excuse.
Ça devient une excuse.
Ouais.
Et je trouve ça difficile parce que si nous, on nous faisait ça, qu'on nous mettait dans un chariot roulant tous les jours et qu'on nous disait qu'on est handicapé. Parce que c'est un peu ça qui se passe. Hein. pour les enfants, ils arrivent, ils me disent « Oh ben non, mais moi je suis dyscalculique, je saurais jamais compter. Mm-hmm. » Non, mais ça, ça n'existe pas, sauf pour des enfants qui ont eu un grave accident, une grave maladie. Oui, c'est vrai. Il y a une femme qui s'appelle Colette Ouzilou, qui a écrit « La dyslexie, une vraie fausse épidémie ». C'est une orthophoniste qui a 40 ans de métier, qui dit qu'en fait, sur les 20% d'enfants diagnostiqués dyslexiques, en fait, ça représente 1 à 2%.
Mmh. Donc, ces diagnostics plombent, handicapent plus qu'ils n'aident parfois.
Tout à fait.
Ça revient un peu à... Enfin, un enfant qui sait qu'il est dyslexique peut, en plus, se saboter parce qu'on lui a mis ce mot dessus.
Tout à fait.
Alors, je me dis, si les étiquettes marchent dans le sens négatif, alors ça marche aussi dans le sens positif.
Tout à fait, et c'est mon travail. Mon travail, en fait, c'est de changer. C'est très intéressant, en fait, c'est de travailler sur la suggestion.
Oui.
L'an dernier, j'avais deux élèves de terminale. C'était la première fois que je faisais ça. Et on a beaucoup travaillé sur la suggestion. J'avais deux élèves de terminale S qui avaient un très mauvais niveau en maths. Et en fait, je leur ai donné un petit surnom. Pour l'une, c'était « Et si je réussissais mon bac ?» Et l'autre, c'était « Ici, c'était du même ordre, c'était de la suggestion. Mm-hmm. » Et vraiment, elles ont eu toutes les deux leur bac, quoi. C'est de changer l'étiquette qu'on a posée sur nous.
Donc, à chaque fois que tu t'adressais à elles, plutôt que d'utiliser leur prénom, c'était « Alors, et si je réussissais mon bac ?»
Non, c'était juste... quand on se quittait, c'était un petit peu un code entre nous.
Ouais.
Et je leur répétais, et parfois je leur fais écrire même. Où ils écrivent dans leur chambre, et si j'avais mon bac.
Ouais.
Où c'était le deuxième surnom, et si j'avais mon bac.
D'accord, donc c'est un travail aussi sur le mental. Hein.
Voilà, c'est un gros gros travail sur le mental, parce que quand on nous a dit qu'on a fait 10 ans de scolarité, où on nous a dit qu'on était mauvais élèves, il faut vraiment faire la bascule, et il faut du temps. Et pour les parents aussi, parce que les parents, ils ont collé cette étiquette sur leur enfant.
Ouais. D'accord. Alors en fait, je disais que tu étais enseignante. En fait, tu es plutôt une révélatrice. Hein, tu fais le labo photo, tu révèles les ressources et les réussites.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, les plus grands, les lycéens, me disent non mais en fait, t'es pas vraiment une prof, toi, t'es un peu tout. Hein.
Tu es un peu tout. Bon, alors justement.
Mais par contre, ce qui est assez sympa, c'est que ce sont souvent les élèves qui se passent l'adresse.
D'accord. Donc c'est qu'ils t'apprécient et qu'ils savent le bienfait que ça fait d'être accompagné par toi.
Tout à fait. Et je pense qu'en fait, mais j'accompagne aussi des adultes et il peut y avoir des adultes qui ont quitté l'école depuis 20 ans. Sauf que quand ils désirent refaire une formation, en fait, ils retrouvent la problématique qu'ils ont laissée.
Et oui, et là, c'est le cerveau limbique qui se met en marche, toutes les mémoires émotionnelles qui arrivent en pagaille, et on se revoit dans la classe, et on se revoit obtenir une mauvaise note, et on se dit, bah, j'ai 40 ans maintenant, mais jamais je vais arriver à faire ma reconversion, parce que de toute façon, j'étais nulle avant, donc voilà. Je le serai maintenant. Allez, on a parlé des adolescents, donc on part dans un univers musical plutôt adolescent, on s'en va avec Manu Chao, Me Gustas Tu.
Mi corazón, te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son?
gusta su cocina, me gusta
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Ciao, me gustas tu, une musique choisie par Martine Lemoyle, mon invitée dans Ondes Positives. Alors pourquoi tu as choisi cette musique, Martine ?
Donc j'ai choisi cette musique parce que c'est un chanteur que mon fils m'a fait découvrir quand il était adolescent. Et effectivement, quand il était adolescent, je trouvais que c'était une façon sympa de pouvoir rencontrer mon fils en écoutant sa musique. Mmh. C'était une façon de partager et aussi de pouvoir parler de ses émotions.
Ah ouais.
Parce que souvent, je m'aperçois aujourd'hui en accompagnant des ados qu'il y a le monde des ados et le monde des adultes. Et on sait quand même que les ados aiment beaucoup la musique, aiment beaucoup partager avec leurs copains. Donc, avec mon mari, on s'est dit que c'était sympa de pouvoir partager sa musique. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'écoute Manu Chao et je pense avec un peu de mélancolie à cette adolescence.
Alors, j'imagine que c'est un conseil aussi que tu donnes aux parents de rentrer aussi dans le monde de leurs enfants, de leurs adolescents, de partager quelque chose avec eux pour créer peut-être un climat de proximité.
Oui, tout à fait. Ce que je peux conseiller aux parents, ça peut être de la musique, mais ça peut être aussi le jeu. Le jeu est une bonne façon de pouvoir rentrer en contact avec les adolescents. Mm-hmm. Je pense que c'est de privilégier des moments où il se passe des choses fortes dans la famille, en fait, avec les enfants.
Mais quand tu parles de jeu, c'est par exemple un jeu de société
Peu importe. Je crois que ce qu'on fait avec les ados ou les enfants, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on partage qui est important.
C'est le temps, encore une fois, hein. C'est le temps consacré, hein. D'accord.
Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même, en accompagnant des adolescents, je me rends compte que pour beaucoup de parents, c'est difficile. Chacun reste sur ses positions. Alors qu'en fait, moi, je pense, pour avoir lu Gordon, qui a écrit, entre autres, « Parents efficaces », il travaille la relation gagnant-gagnant.
Alors, parle-nous, oui, justement, de cette relation.
Donc, qu'est-ce que ça signifie gagnant-gagnant ? C'est-à-dire que quand on est avec un ado, par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple et vous allez comprendre. Un adolescent souhaite faire une heure d'Internet tous les soirs. Vous, en tant que parent, vous souhaitez 20 minutes. Donc, on discute ensemble, on prend un temps où on va discuter et peut-être qu'on va arriver à 40 minutes ou à 30 minutes. Parce qu'en fait, si on fait pas relation gagnant-gagnant, qu'est-ce qui se passe? Les parents sont frustrés, les enfants sont frustrés et donc tout le monde se ment.
C'est une forme de négociation alors, la relation gagnant-gagnant.
La relation gagnant-gagnant, c'est une forme de négociation et je pense qu'elle est très intéressante. Alors j'ai un peu de recul parce que mon fils a 30 ans et on en a beaucoup parlé. Et lui, il dit que ça lui a beaucoup appris à négocier, en fait. C'est-à-dire à être responsable de ses choix.
Oui.
Parce que le fait de dire, pour moi, c'est important. Parce qu'en fait, ce que je remarque en accompagnant des enfants, c'est que si on n'établit pas cette relation, en fait, qu'est-ce que font les enfants ? Ils utilisent des stratégies de contournement. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Je me rappelle d'un copain de mon fils. Son père ne voulait absolument pas qu'il mette ses tennis pour aller, ses chaussures de sport pour aller au collège. Alors il écoutait bien son papa jusqu'à l'arrêt de bus. À l'arrêt de bus, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait ses chaussures de sport à ses pieds et ses chaussures de ville, il les remettait dans son cartable. Papa était content, effectivement, en apparence. Mais en fait, l'adolescent n'avait rien appris sauf de contourner.
Donc, imposer quelque chose, ça entraîne la désobéissance.
Je crois que oui. Si c'est sauf pour des choses interdites, effectivement, il y a des décisions que les parents vont prendre qui sont dangereuses. Et là, effectivement, c'est important. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a beaucoup de négociables avec les enfants. Ça peut être alors du négociable qui va être différent à 7 ans, à 9 ans, à 11 ans. Si on a plusieurs enfants, faudra être vigilant que le négociable avec l'un et avec l'autre soit différent. Mais je pense que ça doit être des décisions, je dirais, co-construites.
D'accord. En fait, l'important, c'est de tracer un cadre, des limites, et ensuite de pouvoir négocier dans le cadre que les parents ont dessiné au départ.
Tout
c'est
à
ça,
fait.
En fait.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Et je pense que ça permet, en fait, aux jeunes de pouvoir poser progressivement, de s'habituer à décider. C'est-à-dire qu'un enfant de 2 ans, on peut lui proposer de choisir ses chaussettes, peut-être. Mm. Et alors qu'un adolescent, eh bien, il va peut-être choisir l'heure du coucher. Les parents souhaiteraient qu'il se couche à 9h30, mais lui, il dit 10h30. Donc, il faudra essayer de trouver une cote mal taillée.
D'accord. Mais souvent, ça, c'est perçu par les parents comme un aveu de faiblesse, de négocier et de laisser quelque part choisir l'enfant.
C'est peut-être considéré comme ça, mais je pense, pour l'avoir expérimenté, pour avoir lu beaucoup de choses dans ce domaine, je pense que c'est vraiment ce qui nous permet, nous, adultes, de donner un sens à notre vie et d'apprendre très jeune à décider. Parce qu'en fait, ce qui est difficile dans la vie, c'est de donner du sens à sa vie et de faire des choix. Moi, je m'aperçois avec les adolescents, par exemple, quand je leur demande pourquoi tu vas à l'école, qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est difficile. Alors qu'en fait, si on les a habitués dès le plus jeune âge à faire des choix, ils sauront ce qu'ils aiment, ils sauront ce qu'ils aiment pas, et ils sauront pourquoi ils ont envie de faire dans leur vie.
Ils seront autonomes, et c'est quand même l'objectif principal de l'éducation, rendre les enfants autonomes, des adultes autonomes et responsables.
Oui, j'aime beaucoup ce mot autonomie. Je pense que mon métier, c'est ça. C'est conduire l'autre à découvrir son potentiel pour être autonome.
Mmh, d'accord. Alors Martine, tu parlais il y a quelques instants de donner du sens à sa vie. Alors qu'est-ce qui donne du sens à la tienne? Aujourd'hui, tu as 55, 56 ans, je ne sais pas exactement. Qu'est-ce qui aujourd'hui donne du sens à ta vie?
Donc, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? D'abord, ma vie personnelle, c'est toute ma vie de famille, effectivement, qui est importante. Mmh. Et puis, dans ma vie professionnelle, eh bien, aujourd'hui, mon combat, effectivement, c'est de se battre pour que les parents, les apprenants que je rencontre puissent trouver des ressources.
Mmh. Alors, tu me disais, moi, je ne prendrai pas ma retraite. J'aime trop la pédagogie. Et tu as notamment un projet là que tu veux mettre en place des ateliers qui s'appellent parentalité positive. Alors parle-nous de ces ateliers de parentalité positive.
Oui, alors pourquoi ces ateliers parentalité positive? Parce que je m'aperçois qu'en accompagnant au quotidien des enfants et adolescents, je suis de plus en plus dans du conseil aux parents. Et donc, c'est pourquoi j'ai décidé de monter des ateliers une fois par mois sur une année avec le même groupe de parents pour leur donner des outils pour qu'ils accompagnent au mieux leurs enfants. Des outils qui sont, pour une part, liés à tout ce qui touche aux sciences cognitives, puisqu'on sait aujourd'hui que les sciences cognitives ont quand même énormément évolué, s'intéresser à comment fonctionne notre cerveau et comment fonctionne le cerveau des enfants. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de que les parents puissent vraiment être des vecteurs pour que les enfants aient une bonne estime d'eux-mêmes.
Mmh.
C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, si on dit que le métier d'élève est important et qu'il faut avoir des stratégies pour devenir un bon élève, eh bien je crois aussi que pour devenir parent aujourd'hui, c'est de réfléchir à notre position de parent. Mmh. Comment je peux accompagner mon enfant pour qu'il puisse découvrir ses intelligences, pour qu'il puisse remplir son réservoir d'estime de lui.
Donc tu mets les parents, les accompagnateurs, les référents également en situation d'apprentissage.
Oui, tout à fait.
Mm-hmm. Donc ça aussi c'est un autre de tes credos, qu'en fait on est en situation d'apprentissage tout le temps.
Oui, je pense que toute notre vie on est en situation d'apprenant, c'est-à-dire que déjà dès qu'on naît, on apprend à marcher. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est-à-dire que plus on va comprendre soi-même comment on vit intérieurement l'apprentissage, plus on pourra aider l'autre. Et d'ailleurs, en général, moi, tous les ans, j'essaye d'apprendre quelque chose de nouveau. L'année dernière, par exemple, j'ai appris à nager. Je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait en moi intérieurement quand la monitrice de natation me donnait des consignes. Et là, j'ai compris à quel point l'encouragement était essentiel. Dès qu'elle m'encourageait, mais je m'apercevais que j'étais capable de faire des efforts.
Ah, la notion d'effort, on n'en a pas encore parlé. Elle est importante aussi dans l'apprentissage, la notion d'effort, parce que ça tombe pas tout cuit. Même quand on a une bonne image de soi et que on sait qu'on sait faire des choses.
Oui, je pense que la notion d'effort est très importante et effectivement aujourd'hui, je pense que, moi je le vis au quotidien avec des adolescents. C'est-à-dire qu'on est dans une société aujourd'hui de consommation et donc les enfants ont du mal à prendre conscience de cette notion d'effort. La semaine dernière, j'avais un élève de seconde à qui je dis « ce serait intéressant que tu travailles 15 minutes tous les jours tes mathématiques ». Il m'a regardé les yeux grands ouverts, mais 15 minutes, c'est pas possible, je ne vais pas les trouver les 15 minutes. Nous avons discuté de son emploi du temps, et là j'ai découvert qu'il faisait des jeux vidéo pendant 4 à 5 heures tous les jours, donc là on a réfléchi ensemble comment trouver les 15 minutes.
Ouais, et comment faire l'effort de consacrer 15 minutes de son temps à des mathématiques.
Je pense qu'il faut... l'effort c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours, c'est-à-dire que ce soit l'apprentissage des mathématiques... ou apprendre à courir, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut doser l'effort.
D'accord.
On va pas devenir bon en mathématiques d'un jour au lendemain. Je peux pas demander à un élève qui n'aime pas du tout les mathématiques de faire une heure tous les jours, mais peut-être que je peux lui demander 10 minutes. Donc je pense que ça soit pour faire des mathématiques ou des parents pour ranger la chambre, c'est la même chose. Je pense qu'il faut doser l'effort et segmenter nos demandes.
D'accord. Donc tu nous expliquais que tu te mets aujourd'hui en situation d'apprentissage pour vivre de l'intérieur ce que vivent tes élèves, peut-être pour mieux les comprendre.
Oui, pour mieux les comprendre, parce qu'en fait c'est difficile d'être apprenant.
Oui.
Comprendre la consigne de l'autre, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, pourquoi j'y arrive pas. Donc en fait le fait de me mettre en situation d'apprenant régulièrement, par exemple j'aime pas la gymnastique et donc j'essaie d'en faire régulièrement, eh ben ça me permet de rester le cancre. Je suis un peu le cancre en gymnastique. Si ma prof l'entend, elle va être contente.
Et donc, tu travailles sur cette image du cancre pour la transformer en quelque chose de plus positif.
Oui.
D'accord. Revenons aux ateliers que tu proposes. Donc, ce sont des ateliers une fois par mois et que tu vas organiser donc à Bressol, dans ton espace de travail.
Tout à fait. Donc, ce sont 8 ateliers de 3 heures. Un groupe de 8 à 10 personnes,
oui.
où progressivement, au cours de l'année, on va réfléchir à qu'est-ce que c'est apprendre, qu'est-ce que c'est accompagner nos enfants pour mieux apprendre. Parce qu'en fait, je pense que ce qui est difficile, parents ou accompagnateurs, c'est-à-dire que on peut avoir envie d'accompagner quelqu'un et sans faire exprès, on peut mal le faire. C'est ce qui se passe, par exemple, certains bénévoles sont de bonne foi, ils essayent de faire au mieux. Mais par exemple, ils vont accompagner un élève, ils vont faire le devoir avec l'élève. Donc, il l'aide, c'est bien, mais ça serait mieux qu'il lui explique la notion et que l'élève fasse son devoir tout seul.
D'accord, ok. Est-ce que c'est aussi pour des personnes qui n'ont pas d'enfants à accompagner, mais qui sont en apprentissage et qui aimeraient aussi profiter de ces ateliers?
Oui, tout à fait. J'ai 2 personnes qui viennent qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont passionnées par l'apprentissage et qui ont envie de découvrir cette nouvelle forme d'apprentissage.
Bon, c'est encore une façon pour toi de donner du sens à ta vie et de te sentir au cœur de ta vie, hein, ces ateliers parentalité positive.
Oui, parce que je pense que de pouvoir, je pense que effectivement, peut-être mon âge, j'ai envie de transmettre. Et je pense que plus on sème de graines, plus on sème de glands, plus il y a de chaînes. Donc, c'est vrai aussi pour l'apprentissage.
Alors, on écoute ton troisième choix musical qui parle justement de donner du sens à sa vie, je crois. C'est Tarmac qui chante « Dis-moi ».
Que ça commence si ce que l'on tient est une absence ou un alibi. Dis-moi aussi, c'est quand que tu reviens. Dis-moi, c'est quand, sans altérer ni sans gommer, cette alternance, cette sensation d'appartenir à la réalité. On se demande bien si ce jour viendra ou enfin on sera comme les autres au cœur de sa vie. Dis-moi, c'est quand que ça commence si ce que l'on tient est une absence ou un alibi. Dis-moi aussi, c'est quand que tu reviens. Moi je ne vois qu'un amateur de la vie, un amateur qui recommence avec mes amours, mes amitiés, tout ce qu'il faut pour être entier. Et je fais, j'essaie, de fait je suis un amateur de la vie, un amateur qui déborde de cette envie, car je la veux, oui, je la suis, oui, je la veux, car je la suis. Dis-moi, c'est quand que ça commence si ce que l'on tient est une absence ou un alibi. Dis-moi aussi, c'est quand que tu reviens. Dis-moi comment, moi qui n'ai rien vu, rien compris, et qui veut m'accuser d'être un vieux con, simultané un petit peu. Comment dit-on, moi, je voulais me retrouver, mais c'est pas si simple d'être emprunté. Dis-moi, c'est quand que ça commence si ce que l'on tient est une absence ou un alibi. Dis-moi aussi, c'est quand que tu reviens. Dis-moi, c'est quand que ça commence si ce que l'on tient est une absence ou un alibi. Dis-moi aussi, c'est quand que tu reviens. Dis-moi, c'est quand
que ça commence. Tarmac, dis-moi. Alors Martine, dis-moi ce qu'elle t'évoque, cette notion d'être au cœur de sa vie.
Donc être au cœur de sa vie, pour moi, c'est se lever le matin et vraiment d'être heureux de ce qu'on va faire. Cette notion, elle est essentielle pour moi, et je m'aperçois qu'elle est vraiment essentielle dans le travail que je fais. Quand je discute avec les adolescents qui savent pas toujours où ils vont, eh bien ce que je leur dis, c'est ça. Ce qui est important, c'est de réfléchir à quel sens tu veux donner à ta vie. Qu'est-ce que t'aimes aujourd'hui, t'as 15 ans, qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que t'aimes accompagner une personne âgée? Est-ce que t'aimes planter un arbre? Parce que je pense qu'en fait, se poser toutes ces questions quand on est adolescent, même si ça va toute notre vie, on est en mouvement.
Oui, ça va évoluer, hein.
Ça va évoluer. Je pense que c'est important de réfléchir à soi, parce que ce que je constate, c'est que arrivé à 45 ans, 50 ans, un certain nombre de personnes disent bon bah je laisse couler jusqu'à la retraite. Je trouve ça dommage. Il faut essayer d'utiliser chaque jour et de donner du sens à chaque jour de sa vie.
Et d'être tous les jours au cœur de sa vie. Merci Martine. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés par tes services, quelles sont tes coordonnées, où est-ce qu'ils peuvent te joindre?
Donc, ils peuvent me joindre sur mon numéro de portable au 06 95 37 28 04 à Bressols.
D'accord. Et puis on va donner aussi ton adresse mail. Hein?
Donc c'est 1, 2, 3. J'aime bien les chiffres. Martine Lemouel, L-E-M-O-U-E-L, @gmail.com. Le site internet ne va pas tarder à venir.
Alors, bien sûr, on reprendra toutes ces coordonnées sur le podcast de l'émission. Merci beaucoup, Martine, pour tous tes messages positifs autour de l'apprentissage. C'était super. Et puis, tu nous as mis une énergie de fou, là, dans le studio. Merci beaucoup. Chers auditeurs, retenez bien le message de Martine. Chacun de nous a un potentiel illimité. C'est valable pour vous-même et pour tous ceux dont vous partagez l'existence. Pour réécouter cette émission, petite nouveauté, la rediffusion d'ondes positives se fera désormais le dimanche à 20h. Sinon, rendez-vous bien évidemment sur le podcast, sur cfmradio.fr, rubrique les émissions, émissions ondes positives. Pour me joindre, toujours le même mail, dorothée.alio@hotmail.com. Je vous souhaite une semaine propice à développer tous vos potentiels extraordinaires et à mardi prochain, bien sûr.
C'est ça qui est bon.
CFM.
L'esprit rock.